Vous êtes sur RTL.
Votre journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Des peines lourdes mais qui se veulent sans doute exemplaires.
Jusqu'à 30 ans de prison prononcée hier soir contre les 5 femmes djihadistes auteurs de l'attentat raté de Notre-Dame. À quoi joue Donald Trump dans le dossier syrien? Après avoir retiré ses soldats et laissé le feu vert aux Turcs sur le terrain, il menace désormais de punir Ankara. Dans ce journal également, retour dans l'Aude, un an après les terribles inondations qui avaient fait 14 morts, et puis le parcours du futur Tour de France, premières indiscrétions à la fin de ce journal.
Deux fois le temps d'ici 6h30.
À Angoulême, en Charente, de la pluie ce matin, beaucoup plus d'éclaircies cet après-midi avec une température de 16 degrés.
RTL Matin.
La justice ne leur a finalement trouvé aucune circonstance atténuante.
Les 5 femmes djihadistes qui avaient tenté il y a 3 ans de faire exploser une voiture remplie de bonbonnes de gaz dans une rue proche de Notre-Dame ont été condamnées hier soir, 25 et 30 ans de prison pour les deux principales accusées, Cindy Hubert.
Oui, il aura fallu près de 10 heures de délibéré pour que les peines tombent très lourdes. Les accusés plongent dans le box les unes après les autres. Inès Madani, celle désignée comme l'instigatrice de ce qui aurait pu être un bain de sang, se contente d'une grimace puis sourit. Elle vient d'échapper de peu à la perpétuité, mais à seulement 22 ans, la voilà condamnée à 30 années de prison. Pour son avocat, maître Pasquet Marinacce, Inès Madani paye le fait d'être devenue un symbole de ce djihad au féminin.
Elle est sonnée, c'est impossible de se figurer ce que ça représente. C'est une peine qui est excessivement sévère. Je pense que c'est une décision qui est là pour faire un exemple. Oui.
L'avocat annonce déjà qu'il réfléchit à faire appel, même si la cour a fait preuve de clémence sur un point crucial. Aucune période de sûreté n'a été prononcée, comme si la justice tendait une main lointaine à ces jeunes femmes sur le chemin de la déradicalisation en leur laissant entrevoir la possibilité un jour de demander un aménagement de peine.
Cindy Hubert pour RTL. 13 jeunes de 16 à 21 ans jugés à partir d'aujourd'hui devant la cour d'assises de l'Essonne pour tentative de meurtre. Ils avaient tenté de brûler des policiers au cocktail Molotov. C'était à Viry-Châtillon, quartier de la Grande Borne, en octobre 2016. Une violente agression qui avait ému l'opinion publique et déclenché à l'époque un mouvement de colère dans la police. Un accident rare mais impressionnant hier soir dans la Loire, la nacelle d'un manège s'est décrochée. Deux femmes ont chuté, la première est décédée, la deuxième gravement blessée.
RTL 6h03. Après avoir dans un premier temps largement laissé faire, Donald Trump a donc semblé hausser le ton vis-à-vis de la Turquie.
Réitérant ses menaces de détruire l'économie turque si Ankara ne changeait pas d'attitude en Syrie vis-à-vis des Kurdes. Le président américain, qui annonce notamment une hausse des taxes douanières, s'est entretenu avec son homologue turc, Erdogan, et il a chargé cette nuit son vice-président Mike Pence de faire le point.
Le président Trump lui a fait savoir très clairement que les États-Unis veulent que la Turquie arrête l'invasion, mette en place un cessez-le-feu immédiat et commence à négocier avec les forces kurdes en Syrie pour mettre fin à la violence. Le président Trump a réitéré ses offres de médiation et m'a demandé de mener une délégation en Turquie. Le président a signé un décret pour mettre en place de nouvelles sanctions contre la Turquie. Nous pouvons mettre fin à cette violence.
Le vice-président Mike Pence, propos recueilli cette nuit par Philippe Corbet aux États-Unis.
Allez, dans un instant, dans ce journal sur RTL, on vous emmène dans l'Aude. Un an après de violentes inondations, le département reste traumatisé. A tout de suite sur RTL.
RTL Matin,
Julien Cellier.
6h06, la suite de votre journal sur RTL. 14 morts, 75 blessés et des dégâts parfois irréparable.
Il y a un an, le 15 octobre, le département de l'Aude était victime de violentes inondations. Ville-Gaillenc a été la commune la plus touchée. La moitié du vieux village va être démolie. C'est là qu'Eliane va dans quelques semaines retrouver son domicile, toujours en travaux. Patrick Hisson l'a rencontré pour RTL.
Un an après, Eliane, 78 ans, n'est pas prête d'oublier cette terrible nuit où l'eau est montée jusqu'à 2,50 m dans sa maison.
Tout a été massacré, tout était arraché à l'intérieur. Je suis partie de la maison, puisqu'on a amené mon mari à l'hôpital, avec une valise. Au bout de 60 ans de mariage, c'est tout ce qui me reste. C'est comme une guerre qui est passée là.
Un an plus tard, son vieux quartier a aujourd'hui des allures de village fantôme.
On va être les seuls sur la place. Tous nos voisins, deux sont mortes. Les autres sont partis à la maison de retraite. On va se retrouver seuls là dans notre vieux village. C'est triste.
Triste mais très déterminée, Eliane a malgré tout décidé de revenir dans sa maison qui est encore en travaux pour quelques semaines.
On ne peut pas faire autrement de toute façon. Il ne faut pas pleurer, il faut s'armer de courage et y aller. Je suis obligée de foncer, il faut tenir.
À Ville-Gaillenc, il va falloir encore beaucoup de temps pour que le village retrouve un jour une population aussi nombreuse qu'avant la catastrophe.
Un reportage signé Patrick Hisson pour RTL. C'est un soulagement pour les agriculteurs normands qui vont pouvoir reprendre dès ce matin la collecte du lait, 3 semaines après l'incendie de l'usine Lubrizol. Les mesures de restriction ont été levées hier. Et puis fin du suspense à Lyon, petit suspense, Gérard Collomb sera bien le candidat de La République En Marche à la métropole pour les prochaines municipales. L'ancien ministre de l'Intérieur a été préféré à son concurrent David Kimmelfeld.
Il faudra patienter encore un peu avec leur match nul un partout face à la Turquie. Hier, les Bleus ont retardé leur qualification pour l'Euro.
Au terme d'un match qui s'est plutôt bien déroulé alors que le contexte semblait tendu, plusieurs personnalités politiques avaient même appelé dans la journée à annuler tout simplement la rencontre. La Marseillaise, on pouvait le craindre, n'a pas été sifflée, signalons-le. Les Bleus devront donc patienter encore un peu. Les supporters hier soir, un peu déçus.
Je suis déçu, 1-1, je suis déçu. On s'est mangé 2-0 à l'aller, il ne faut pas oublier. 1-1, franchement, la Turquie, ils ont donné de la voix. Donc il est tout à fait normal que les joueurs ont suivi.
Petit regret que la qualification ne soit pas arrivée.
Ouais, bah ouais, pas tout de suite, hein. On va attendre les prochains matchs, mais ça devrait être bon.
Allez les Bleus !
Question de supporters recueillie par Gauthier Delon-Bugard. Et puis, je vous en parlais en titre, le Tour de France 2020. Le parcours sera dévoilé tout à l'heure. Beaucoup, beaucoup de montagnes. Nicolas Georgerot, vous avez déjà quelques petites infos à nous donner.
Oui, c'est une grande boucle qui sera majoritairement dans le sud du pays. Après le départ de Nice, le peloton prendra la direction de Sisteron, de l'Ardèche, puis passage vers Millau. 2 jours dans les Pyrénées, avec notamment l'escalade du port de Balès, découvert sur le Tour en 2007. Les coureurs iront ensuite autour de La Rochelle, l'île d'Oléron, l'île de Ré sont évoqués pour accueillir une étape. Ce sera ensuite la Vienne, la Corrèze, par Saran, où se trouve le musée Jacques Chirac. Le Massif central dans la foulée, qui donne toujours d'ailleurs des étapes animé. La troisième semaine se concentrera dans les Alpes avec une arrivée inédite au sommet du col de la Lauze, au-dessus de Méribel à 2300 mètres d'altitude. Ascension qui passe par un ancien chemin de service goudronné il y a peu. Autre arrivée au sommet inédite, celle au Grand Colombier dans le massif du Jura. Enfin, à la veille de l'arrivée à Paris, ce devrait être un contre-la-montre en Franche-Comté sur les terres de Thibaut Pinot et qui se terminerait à la planche des Belles-Filles.
Nicolas Georgerot, spécialiste Tour de France sur RTL.
La crème des courses à Chantilly.
Les pronostics de Dominique Cordier, le 9, le 4, le 12, le 16, le 7, le 14, le 5 et le 13. La dernière minute, c'est le 12, Stone Town. La course du Quintet, elle est à suivre sur 6play.fr à 13h47.
Merci Dominique, à tout à l'heure à 7h avec Yves Kelly.